Confiné, pas déprimé, édition du mardi 31 mars. Et oui, on continue, on est toujours là, en même temps on est à la maison et on a que ça à faire, ou presque. Donc Studio Zef est toujours au rendez-vous à 9h et à 12h30 pour ce bulletin spécial confinement. Aujourd'hui, une émission un peu plus longue avec un témoignage en longueur du journaliste Jordan Pouille, correspondant pour Le Monde en région centre. Mais avant d'entendre son témoignage, on va vous faire un petit point sur les transports sur le réseau Azalis. Donc tout de suite, on parle de transport en commun sur l'agglomération blésoise, en particulier sur le réseau Azalis. Donc depuis une semaine, l'ensemble du réseau Azalis est perturbé de telle façon. Alors je vais vous donner quelques informations concernant les principales lignes. Donc la ligne A, où 17 courses par jour sont assurées, ce qui correspond à 21% du trafic. Sur la ligne B, qui circule à 31%, on a 28 courses assurées par jour. Sur la ligne C, elle circule à 24%, soit 23 courses assurées par jour. La ligne D est fortement perturbée puisqu'on a 22 lignes assurées, soit 41% du trafic. La ligne E circule à 36%, ce qui correspond à 7 allers-retours assurés. La ligne F, elle, est totalement coupée. La ligne G, il y a un seul aller-retour qui est assuré. Quant à la navette centre-ville, la navette électrique, on trouvera une navette toutes les 39 minutes. Le dimanche, seule la ligne B circule à 35%. Les lignes C et D ne circulent pas. À savoir, le système Rezago Andigo, c'est-à-dire les services à la demande, elles fonctionnent normalement en semaine, mais par contre sont supprimées le dimanche. Et l'ensemble des lignes secondaires ne circulent pas, et ce depuis 15 jours. Autre information importante, l'agence Azalis, qui est située 3 rue du Commerce, est fermée depuis 2 semaines. Par contre, la plateforme de relations clients est joignable. C'est le 09 693 693 41. Les horaires sont réduits. Je vous donne les horaires d'ouverture. C'est du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Et donc, pour acheter un titre de transport ou recharger sa carte JV Malin, il est conseillé d'utiliser la boutique en ligne, qui est donc le boutique.azalis-blois.fr, ou de se rendre dans un des points de vente Azalis, dont la liste est disponible sur le site. Alors Azalis a énoncé quelques précautions pour voyager dans les quelques bus qui circulent. Donc les mesures de précaution, elles sont très proches de l'ensemble des gestes barrières qu'on va trouver, avec en plus quelques adaptations spécifiques aux lignes de bus, à savoir qu'il n'y a plus de vente de titres à bord par les conducteurs, donc il faudra acheter ces titres de transport avant. On monte dans le bus exceptionnellement par les portes du milieu ou les portes arrière. Il est demandé à l'ensemble des voyageurs de respecter un mètre de distance avec le conducteur et les autres voyageurs. Et évidemment, l'attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire dans le bus. On finit avec quelques informations qui concernent les abonnés au réseau Azalis. Pour les abonnés mensuels, le mois de mars est prolongé automatiquement, sans frais, jusqu'au 30 avril, sans nécessité de rechercher un nouveau contrat. Et pour les abonnés qui ont déjà renouvelé leur abonnement pour avril, la prolongation se fera pour le mois de mai. Pour les abonnés en tacite reconduction, l'échéance du mois d'avril ne sera pas prélevée et l'abonnement continue d'être valable. Pour les abonnés annuels, lors de son échéance initialement prévue, les abonnements annuels tout public et solidaire seront prolongés gratuitement d'un mois. Voilà, c'est tout pour les informations qui concernent les transports en commun sur Blois et l'agglomération. Toutes les informations que je viens de vous donner à l'instant seront disponibles dans l'article de podcast qui accompagne l'émission sur le site de la radio studiosf.fr. Vous pouvez retrouver en effet toutes les émissions Confinées pas déprimées depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis une bonne semaine maintenant. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause musicale. Et on va s'écouter un morceau de Super Bravo qui s'appelle Hanouka.
Tu vois, je ne connais pas ta vie, mais je peux te dire Hanouka. Tu vois, je ne connais pas ta vie, mais plus tu parles, mieux tu vas. On lit dans tes yeux comme dans un livre, comme dans un livre Hanouka. Trop pire, laisse la tourner, c'est pour moi. Mais tout passe en principe, en principe, Hanouka. Tout passe en principe, Hanouka. Mais tout passe en principe, Hanouka. Tout passe en principe, Hanouka. Ces moments-ci, alors on voudrait tout changer. On est moins tendance ces moments-ci, aimer se sentir aimé. Tout comme un courant alternatif, le bonheur existe et s'en va. Plus encore si tu es dépressif et tu es dépressive à nos cœurs. Mais tout passe en principe, en principe à nos cœurs. Tout passe en principe, en principe. En principe, Hanouka. Tout passe en principe, Hanouka. Près du Chopi, pardon pour hier Hanouka. Je n'ai rien pu faire, trop surpris. Je n'ai pas réagi Hanouka. Tu vois, je ne connais pas ta vie, mais je peux te dire Hanouka. Tu vois, je ne connais pas ta vie, mais plus tu parles, mieux tu vas. Mais tout passe en principe Hanouka. Tout passe en principe. Hanouka, mais tout passe en principe, Hanouka. Tu es libre en principe, Hanouka. Mais tout passe en principe, Hanouka. Mais tout passe en principe, Hanouka. Mais tout passe en principe, Hanouka.
À l'instant donc, c'était Hanouka par Super Bravo. Tout de suite, je vous propose qu'on continue notre programme avec un long entretien avec le correspondant local du Monde, Jordan Pouille, qui a pas mal de choses à nous dire sur sa façon de travailler. Et ensuite, on abordera avec lui quelques éléments d'analyse et de compréhension de la situation, en particulier en regard de ce qu'il s'est passé en Chine récemment. Bonjour Jordan.
Salut.
On peut te présenter, tu es correspondant pour le journal Le Monde en région Centre, plus particulièrement sur trois départements, le Loir-et-Cher, oui. l'Indre et le Cher, c'est ça?
Voilà.
Et accessoirement, tu es journaliste indépendant?
Ah oui, je suis freelance. Je travaille aussi avec le site Mediapart et l'hebdomadaire La Vie.
Et donc, tu es journaliste en confinement à Blois?
Voilà. Et en semi-confinement, car pour le boulot, il faut quand même que je raconte comment se présente la situation dans le territoire que je couvre. Donc ça m'amène un peu à me déplacer, mais bon, c'est assez limité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que déjà spontanément, les gens préfèrent faire l'interview au téléphone, ce que je comprends. Et puis les rédactions sont beaucoup plus tatillonnes pour nous envoyer sur le terrain. Donc en général, il faut obtenir l'accord de la direction de la rédaction. Donc c'est au-delà du chef de la rédaction. Et du coup, c'est un processus un peu plus fastidieux. Donc ça nous incite à faire du télétravail.
D'accord. Et cette direction, du coup, est-ce qu'elle délivre facilement des autorisations pour aller sur le terrain ou est-ce qu'au contraire, elle est très, très réservée?
Je pense que ça dépend vraiment du sujet. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Ils essayent de voir s'il n'y a aucune autre possibilité de faire le sujet. Et par exemple, si quelqu'un fait un truc embedded en immersion dans un EHPAD, ça se justifie, quoi. Mais bon, autrement, moi jusqu'à présent, même pour des photos par exemple, c'était pas possible, quoi. Mais non. Là par exemple, je viens de livrer un sujet sur une sorte de maraude en ville en fait, pour voir comment les. Enfin, j'ai accompagné une équipe de maraude pour voir comment les SDF étaient gérés. Je suis pas resté très longtemps. Et d'ailleurs, les bénévoles sont extrêmement bien protégés. J'étais assez agréablement surpris.
Tu es titulaire de la carte de presse?
Oui.
Et du coup, ça te permet quand même, toi, d'avoir un certain nombre de facilités pour te déplacer quand même?
Voilà, c'est mon totem d'immunité. Non, mais en fait, ça ressemble à une attestation dérogatoire, finalement. C'est considéré comme tel, a priori, par les forces de police et de gendarmerie. Puisque c'est mon. Voilà, ça me permet de travailler en fait. Donc normalement, j'ai pas encore été contrôlé, mais on m'a bien expliqué, la commission de la carte de presse, que c'était le document qui suffisait à présenter pour pouvoir travailler. Mais en même temps, j'ai entendu que des journalistes s'en servaient pour aller faire leurs courses et tout ça. Et donc il est possible qu'ils demandent, en plus de la carte de presse, une sorte d'attestation, une preuve ou une commande écrite. De la rédaction, quoi, qui justifierait mon déplacement.
D'accord. Alors du coup, comment est-ce que tu évalues, toi, tes conditions de travail actuellement?
Bon, moi, elles sont un peu soporifiques, hein, parce que à la base, je fais surtout du reportage, et là, on va dire que j'en fais, mais au téléphone, quoi. Enfin, parce que je continue de récolter des témoignages, de raconter. Là, j'ai fait un sujet sur les pompes funèbres où j'essaie de raconter les conditions de travail des aussi bien en thanatopraxie, donc ceux qui font la toilette mortuaire, des Covid-19. Donc, ça demande beaucoup de précautions. Donc, j'essaie de raconter des trucs qui sont très visuels, mais en même temps, je ne peux pas aller voir, quoi. Et donc, je m'appuie beaucoup sur les descriptions que les gens me donnent. Bien gentiment au téléphone. C'est ça la particularité du truc. C'est comment rester le plus visuel, le plus sur le terrain, entre guillemets, sans y être. Donc effectivement, en prévenant le lecteur que tout se fait à distance. Mais voilà. Par exemple, j'ai fait un sujet aussi pour Le Monde aux Hôtes-Beauval, où je raconte comment les soigneurs et les animaux vivent à huis clos. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de trucs qui sont suspendus, tous les transferts d'animaux vers l'extérieur ou chez eux, le ravitaillement d'alimentation n'a pas évolué, même si il y a des difficultés de logistique. Et puis, mais surtout, il n'y a plus de visiteurs. Donc, est-ce que ça a eu une influence sur le comportement des animaux? Donc, c'est des trucs que j'aurais aimé voir, mais forcément, je ne peux pas entrer.
Ouais. Et donc, du coup, à part ça, les prochains sujets sur lesquels tu travailles?
J'aimerais bien m'intéresser à. Enfin, j'essaie de voir. Parce que pour l'instant, l'Agence régionale de santé, pardon, ne comptabilise pas les cas de contamination dans les EHPAD. Parce que souvent, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de kits.
De tests.
Donc, c'est surtout des diagnostics qui sont posés par les médecins coordinateurs. Et du coup, c'est de la présomption de contamination. Tu vois, c'est de la forte suspicion. Donc, ce n'est pas officiellement des cas de Covid-19, alors qu'on assiste pour l'instant à des vagues importantes, comme à Salbris, de mortalité. Donc, j'aimerais bien un peu raconter ça. Et puis, je pense que le monde va sans doute préparer. Avec les victimes, on va raconter quand même les parcours des gens, quoi. C'est un peu des anonymes et on va essayer de voir ce qui s'est passé. Juste avant la contamination, enfin essayer de donner des histoires quoi autour de ces cas.
D'autant plus que ce débat autour de l'ARS et de la façon de compter les contaminations, elle n'est pas que locale, elle est à l'échelle nationale. C'est une des, enfin c'est, on a l'impression que c'est un choix global même du ministère de la Santé au niveau du décompte des contaminations.
Ouais. Mais on trouve quand même des particularités régionales. Par exemple, j'avais vu que dans les Hauts-de-France, apparemment, il y avait plus de kits, plus de contrôles. Du coup, les morts dans les EHPAD sont quand même signalées auprès de l'ARS et c'est la préfecture qui les confirme auprès de la Voie du Nord. Enfin, ils ont inventé un circuit de validation, entre guillemets, jusqu'à l'étape de la communication vers la presse. Alors que la région centre, j'ai vu que eux ne donnaient plus de cas de contamination parce qu'ils disaient que à part donner une tendance, en fait, puisqu'on n'avait pas les chiffres exacts, c'était peut-être pas pertinent de donner des chiffres parce qu'on est loin de la réalité. Donc ils disent les cas de réanimation maintenant. Et donc réanimation à l'hôpital. Parce que peut-être que pour eux, c'est une donnée plus fiable pour rendre compte de l'évolution de l'épidémie. Enfin, c'est ce que j'observe ici, quoi.
D'accord. Et du coup, comment on enquête sur cette question dans les conditions tu disais au téléphone, est-ce que par exemple l'ARS, qui doit être à mon avis très occupé en ce moment, est-ce que c'est facile de les joindre et d'avoir des informations sur ce sujet?
Bah en fait, oui. C'est-à-dire qu'il y a l'ARS, enfin en tout cas le siège à Orléans, on finit par avoir des numéros de portable et les gens décrochent. Mais il y a des sujets, on sent que c'est compliqué pour eux. Par exemple, il y a l'histoire d'un centre d'appel à Blois, où il y a eu 3 cas de Covid-19. Les salariés qui partageaient le même open space ont été mis en quarantaine, sauf que cette mise en quarantaine a été écourtée quand on est passé au stade 3 de l'épidémie. Pourquoi? Parce que l'ARS dit bah oui, c'est un cas de contamination active, ce qui veut dire qu'à part respecter les gestes barrières, la quarantaine va servir à rien. Si les gens sont pas malades, si on a bien désinfecté le lieu, ça sert à rien de les retenir chez eux. Donc on les fait revenir. Donc c'était un cas de stress énorme pour les salariés qui reviennent bosser la boule au ventre. Et l'ARS se dit oui, bah nous on vous dit ça, mais ça veut pas dire que c'est nous qui donnons les instructions aux employeurs pour. On n'organise pas la façon de travailler, en fait. Ce que je veux dire, c'est que l'ARS, parfois par les employeurs, je me rends compte, elle est sollicitée comme un argument autoritaire, en fait. Ça, c'est un prétexte. Bon, bah, l'ARS nous a dit ça, donc ça veut dire qu'on peut vous faire bosser, en fait. C'est ce que j'observe, alors que l'ARS n'est pas censée et ne veut pas influencer l'organisation du travail. C'est juste des conseils.
Très bien. Bah, c'est un sujet intéressant et je pense que c'est une affaire à suivre, puisque voilà, on va dire qu'à partir du moment où l'épidémie sera calmée et qu'on aura un petit peu de recul sur la question, il y aura peut-être la possibilité de faire la lumière de façon plus simple.
Oui, parce que là, je pense que chacun essaye de comprendre quel est son rôle, en fait, même au sein des administrations. Il y a l'inspection du travail, il y a la préfecture, il y a l'ARS. Qui décide de quoi, tu vois? Là, on a parlé de en gros, ceux qui pouvaient travailler, c'est ceux qui appartenaient à des secteurs essentiels à la vie de la nation, mais ça veut tout et rien dire. Et en même temps, il n'y a aucune liste qui définit, sauf en Afrique du Sud, eux le font, mais en France, il n'y a pas de liste qui définit les métiers ou les activités nécessaires à la vie de la nation. Par contre, on sait que l'alimentation est un secteur indispensable à la vie de la nation. Donc, ils jouent un peu sur les mots et ça crée une confusion. Je pense qu'on va gagner en clarté dans les jours qui suivent. Et je pense même que les EHPAD, les décès liés au Covid-19 vont être comptabilisés. Mais pour l'instant, on est encore dans une période de flou qui peut prêter à des interprétations néfastes.
Et en même temps, enfin, ça, je te donne mon sentiment sur la question. J'ai l'impression que la question des chiffres est toujours une question très politique, puisqu'on est aussi dans une espèce de compétition malsaine au niveau international, de savoir celui qui va être celui qui est le plus affecté par cette épidémie. Il faut justement pas être tout en haut du classement. Et peut-être qu'ils ont peur aussi qu'en rajoutant certains chiffres, hein, je parle au niveau politique, hein, au plus haut niveau, ils aient peur peut-être de paraître, on va dire, d'avoir une mauvaise image sur un plan national, voire international.
Ben, c'est-à-dire que là, on se rend compte que les chiffres, on avait quand même un doute parce qu'on prend toujours les chiffres chinois avec des pincettes, les chiffres officiels, mais là, on se rend compte qu'à partir d'autres sources d'informations, d'autres données, les chiffres, par exemple, non. Enfin bon, là, je réfléchis, je me dis, est-ce que c'est vraiment pertinent? Mais on commence à voir des histoires sur les commandes d'urnes funéraires, ou dans lesquelles on met les cendres, qui apparemment sont bien plus nombreuses que les morts officielles enregistrées par le enfin, du coronavirus. Donc on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le nombre de gens incinérés et liés au Covid-19 et le nombre de Covid-19 enregistrés? Donc et là, on se dit, ah, mais c'est la propagande chinoise, regardez, ils nous mentent. Donc, et les pays occidentaux ne veulent surtout pas, je pense, que leur image soit associée à ce genre de gestion, en fait. Enfin, parce que ce qui compte, je pense, quand même, c'est la transparence. Mais en même temps, ce qui compte aussi, c'est la pertinence. Faut pas aller trop vite en disant que tel chiffre est légitime. Tu parlais de l'intérêt politique.
Oui.
Et bah oui, donc oui, je pense que le gouvernement, chaque gouvernement a besoin de montrer que la situation est sous contrôle. C'est une manière de rassurer la population. Je pense qu'il y a quand même un souci de transparence avec les réseaux sociaux, avec la vigilance de la population. C'est quand même difficile d'atténuer les chiffres. Donc lentement mais sûrement, je pense qu'on va avoir des chiffres de plus en plus fiables pour décrire la situation.
Tu parlais de la Chine, on va dire que la Chine, c'est aussi un de tes sujets de travail, d'enquête.
Bah moi j'ai un prisme chinois, j'ai habité presque 6 ans en Chine, j'ai été correspondant à Pékin et je raconte encore des histoires de Chine quand il s'agit d'investissements chinois en France notamment. Et voilà, et puis j'aime bien comparer en fait.
Et du coup, bah, comment tu analyses, toi, les réponses apportées par la Chine, que ce soit le gouvernement et la population, face à cette épidémie?
Bon, alors ce qu'on voit quand on s'intéresse à la Chine, ce qu'on voit en premier, c'est des méthodes radicales. C'est-à-dire que les gens ont été mis à Wuhan, l'épicentre. Les gens ont été mis assez rapidement. Une fois que l'information a été diffusée, les gens ont été mis vraiment sous quarantaine. On ne pouvait plus sortir. Et dans les grandes villes aussi, c'était quand même assez drastique, tu vois. Ma belle famille à Pékin, ils sont pas sortis pendant 2 mois, mais vraiment pas. Bon, mais en même temps, je pense que c'est au-delà des instructions données par les autorités et des mesures vraiment de plus en plus radicales que nous, on n'a pas encore, mais peut-être que c'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a eu aussi une forte, je vais pas dire discipline, mais une forte auto, je sais pas, un désir individuel de faire vraiment le nécessaire. Tu vois, les Chinois, en 2003, ils ont eu le SRAS. Donc c'est une autre épidémie, ils ont encore ce souvenir et je pense que du coup ça a déclenché des automatismes de protection que nous on n'avait pas parce qu'à l'époque du SRAS, c'est resté confiné à la Chine et à Hong Kong. On n'a pas connu l'épidémie. Donc on peut dire que les Européens sont peut-être un peu plus nonchalants, ils pensent que ça va pas leur arriver, mais ils n'ont pas non plus d'historique récent, tu vois. Donc c'est pour ça que je peux dire que c'est pas juste parce que c'est un peuple discipliné, ça veut rien dire, quoi, que la Chine est plus efficace dans sa manière de contenir l'épidémie. C'est aussi parce qu'elle, c'est dans sa mémoire récente.
Tu disais que nous, on était peut-être un peu nonchalant. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a fait preuve un peu d'insouciance. On n'y croyait pas trop, quoi, que ça pouvait nous arriver, nous tomber dessus. Moi, le premier d'ailleurs, hein. Et quel est toi ton sentiment là-dessus?
Moi, je suis assez sceptique sur le fait qu'on nous dise que le masque ne sert à rien. C'était un truc qu'on a entendu pendant très longtemps. Moi, j'ai trouvé ça insupportable. Et même de culpabiliser les gens qui avaient un masque, parce que l'État n'était pas capable de fournir les soignants en masque. Et donc, il y avait une sorte de psychose, quoi. je trouvais assez néfaste. Je pense que le gouvernement aurait dû reconnaître qu'il y a une pénurie de masques, mais que le masque est indispensable. Et parce que maintenant, on y est, quoi. Il faut vraiment que les gens portent un masque pour se protéger et protéger les autres. Et la même histoire pour le gel hydroalcoolique, c'est incroyable. Même encore maintenant, c'est très difficile de se pourvoir en gel.
On a affaire maintenant à un espèce de retournement absolument spectaculaire, en fait, où on passe d'un discours quasiment inverse au précédent. Toi, justement, est-ce que tu as quelque chose à un petit peu. Comment tu analyses la situation?
Je pense que aussi bien les hommes politiques que l'opinion publique, entre guillemets, on a vu l'épidémie se développer en Asie d'une manière assez lointaine, très exotique, ça ne veut pas nous arriver. C'est une forme d'arrogance aussi, tu vois, genre on n'est pas capable. Nous, ça ne peut pas nous arriver, parce que j'ai revu des éditorialistes qui disaient que notre système de santé était tellement fiable qu'à part quelques cas marginaux, tout sera très bien contenu, quoi. Et donc les cas marginaux seront contenus. Enfin bref, c'était tellement minimisé que ceux qui ont pris des précautions avant les autres étaient pris quasiment pour des hurluberlus, des survivalistes. Enfin, et maintenant, tu as raison, on est vraiment dans l'attitude inverse où on augmente le montant des sanctions pour les gens qui ne respectent pas le confinement, ce qui est normal, hein, mais il y a vraiment tellement de contraste entre le début, on va dire il y a 3 semaines et maintenant. Bon, après, je pense encore que là, tu vois, on peut faire ses courses dès l'instant où l'on présente son document, son attestation. Mais techniquement, j'ai l'impression qu'on peut faire ses courses autant de fois qu'on veut, dès l'instant où on présente ce document, qu'on met à jour. Et ça, je trouve ça un peu curieux. Après, ce que je trouve aussi curieux, c'est qu'il y a autant d'activités. Enfin, je peux comprendre économiquement, mais je suis quand même surpris de voir qu'il y a autant d'activités qui soient maintenues. Ce qui veut dire qu'il y a toujours autant de. Il y a encore beaucoup de flux pendulaires, quoi, de travailleurs qui vont et viennent et qui se côtoient sur leur lieu de travail. Et bon, est-ce que c'est pertinent alors qu'on n'est pas encore dans ce fameux pic d'épidémie? Je m'interroge.
J'ai une dernière question. Du coup, moi, en tant qu'individu, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un événement historique. En tant que journaliste, toi, comment tu analyses cette période à chaud?
À chaud, comment j'analyse cette période? Ben, c'est un peu au jour le jour, hein, quand même, parce que je sais pas. Bah, c'est dur d'avoir du recul parce qu'on est dedans, quoi. On est aussi bon. Je vis le confinement, je vis la vigilance. Ce qui peut peut-être m'aider, c'est d'avoir couvert juste avant. Et encore à distance, mais j'ai essayé de raconter l'épidémie en Chine à travers des témoignages que je pouvais recueillir. Et donc ça m'aide à avoir du recul, en fait, de me dire, bon, là par exemple, ce qui m'intéresse, c'est en ce moment, on voit beaucoup de gens qui disent, oui, notre vie va changer, ça va bousculer notre rapport à la consommation, les choses essentielles de la vie et tout. Bon, bah ça, je mets un peu. Bon, je doute un petit peu parce que je vois comment la vie reprend en Chine et bah, les choses redeviennent comme avant. Même s'il y a eu un impact sur l'économie, je pense pas qu'en termes de culturel, voire civilisationnel, on ait vraiment changé, hein. Les gens ont envie de consommer, ont envie de retrouver leurs habitudes, ont envie de retrouver leur vie d'avant.
Ben c'est, je te remercie. En effet, ça permet de relativiser un petit peu certaines choses, quoi. Certains discours un
Oui.
petit peu, on va dire, presque messianiques ou prophétiques, qu'on peut aussi avoir dans une certaine frange de la population.
Oui, c'est ça, là, en fait, on a envie de rêver, mais je peux comprendre, hein, que tout ça, je peux comprendre qu'on veuille transformer cette angoisse en espérance et en espoir. Mais il faut quand même voir ce qui se passe en Chine, pour qui l'épidémie, enfin, les Chinois, pour qui l'épidémie est quasiment derrière eux, il n'y a pas de transformation. Il y a peut-être une transformation technologique, parce que des technologies, surtout en Corée, enfin, en Corée, ils y sont encore, hein, dedans. Mais il y a des technologies de surveillance de la population, pour leurs déplacements, donc il y a des technologies de surveillance de la population qui ont été mises en œuvre, qui ont été éprouvées pendant l'épidémie et qui sont restées. Donc je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Des choses simples, hein, il y a des Tu sais, dans les supermarchés en France, il y a quand même de plus en plus de supermarchés qui contrôlent, il y a des caméras thermiques qui contrôlent les foyers de chaleur dans le magasin pour voir quels sont les rayons qui rassemblent le plus de monde. Et là, bah, grâce à l'épidémie, ce genre de choses se multiplient, en fait, grâce ou à cause. On a envie de savoir où les gens se rassemblent. Là, pour le coup, si les gens se rassemblent, c'est très dangereux, entre guillemets, parce que le risque de transmettre la maladie est plus important. Mais c'est des choses qui pourraient rester, qui peuvent trouver un usage marketing après avoir trouvé un usage ou de surveillance après avoir trouvé un usage sanitaire. Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça, en fait. Quels outils qui auront été déployés pendant la crise vont être maintenus et exploités une fois que la crise est derrière nous.
Ouais, en quelque sorte, il va falloir continuer à être vigilant, mais pour d'autres raisons, quoi.
Voilà, d'être vigilant pour préserver, c'est un grand mot, mais c'est liberté individuelle.
Très bien. Ben, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré, et puis à l'occasion, on n'hésite pas à revenir vers nous pour qu'on échange à nouveau, quoi.
Super, bah merci. Moi, ça m'a aidé à avoir du recul sur ma pratique en ce moment. Et puis, voilà, volontiers.
Ben, merci. Au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de notre émission. Je remercie encore chaleureusement Jordan Pouille pour les éléments de compréhension qu'il nous a apportés. Je vous rappelle les deux façons de nous contacter. Si vous avez quelque chose à nous dire, un petit message, vous pouvez nous laisser un message vocal sur le 02 54 43 51 33. Si vous avez des informations d'utilité publique, des informations que le grand public, que nos auditeurs méritent d'avoir, vous pouvez nous écrire un petit mail à l'adresse onresteensemble@studiosf.fr. Ben, quant à moi, on va se quitter en musique avec un morceau de Baptiste W. Hamon et ça s'intitule Je brûle. À demain pour plus d'informations.
Cette maison, c'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant, face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village, et tous ces gens qui passent. Ils n'ont pas vraiment d'âge. Il est un étang aussi, là-bas, quand j'ouvre grand la fenêtre du salon. J'y salue les eaux calmes chaque matin. Et les eaux calmes me répondent, et je me sens revivre, tiens. Elles me rappellent tes caresses, tes baisers. Alors, je peux démarrer ma journée. Je brûle de mille feux, je brûle de mille feux. Maison de pierre blanche, d'où l'on observe les souvenirs de l'enfance et de la grande adolescence. Je n'avais pas conscience des détours qu'il faudrait prendre, et peu importe. Tout au bout, je savais le plaisir, les voyages, un baiser. Alors, je peux démarrer ma journée. Je brûle de mille feux. Je brûle de mille feux. Pour toi, tu sais, tu ne sais pas peut-être, je te le dis alors. Pour toi, souvent, je suis comme dans un grand brasier. À la simple évocation de ton nom, de tes yeux, je brûle, peut-être que je suis amoureux, amoureux. Je ne sais pas, je ne sais plus, de toute façon. Je ne te le dirai pas, pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi, mais je brûle, je danse pour toi, je ne me lasse plus d'être moi. Je brûle, je brûle, je brûle, de mille feux, je brûle, je brûle.